Alors, Annick, dis-moi, bon, tu vois plusieurs victimes d'abus dans le cadre de ton travail ou d'agression. Quels sont les effets ou les symptômes ou les séquelles psychologiques les plus courants qu'on voit chez une victime d'abus ou d'agression?
La culpabilité est très, très présente chez les victimes. En fait, c'est une des conséquences qu'on le voit le plus souvent. Il va avoir la honte, le dégoût, il va avoir les peurs des représailles et il va surtout avoir la peur de ne pas être cru. Et ça, c'est la pire parce qu'elle est vraiment, vraiment présente chez toutes les victimes. Peur de ne pas être pris au sérieux, peur de ne pas être cru par leur famille, de ne pas être cru par leur entourage ou même par nous, les intervenants. Ils ont même peur qu'on ne les croit pas. Fait que c'est vraiment cette peur-là, là, ce symptôme-là très psychologique là, qui est vraiment présent chez toutes les victimes pratiquement. La culpabilité, c'est vraiment très, très présent. Puis c'est la force et force les gens souvent à opter pour des mécanismes de défense inopportuns. Ils vont aussi se lancer dans l'alcool, ils vont se lancer dans la drogue, ils vont travailler beaucoup, 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 beaucoup. Puis souvent, bien, les agresseurs, ils vont user une menace et une manipulation pour garder la victime dans le silence. Fait que c'est ce qui fait que les victimes, ils se sentent coupables. Ben là, t'avais juste à pas être là. Ben là, c'est toi qui m'as provoqué. Ben là, si tu parles, je vais tuer ta famille ou ta mère te croira pas ou tu vas briser la famille. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est pour ça que moi, je parle plus de culpabilité que de déni. Puis souvent, ils vont finir par en parler. Ils vont en parler adultes parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent juste plus de garder ça à l'intérieur d'eux parce que, tu sais, le traumatisme de l'agression sexuelle, ça reste quand même un traumatisme très, très important. Mm. Puis, à un moment donné, ils finissent qu'ils touchent le fond du baril. Ils finissent par en parler. Évidemment, c'est une généralité. Ils ne sont pas tous comme ça. Ils ne touchent pas tous le fond du baril avant d'en parler. Mais en général, là, ce qu'ils nous disent, c'est que moi, j'ai été retenue dans le silence longtemps parce qu'il m'a menacé. Il m'avait dit que je briserais la famille. Il y en a qui attendent même que le parent décède avant de parler pour pas leur faire vivre ça.
Décrivez-nous les étapes, grosso modo, du processus de guérison.
En premier lieu, il y a que les victimes en parlent. Quand les victimes souffrent, c'est déjà 50 % de la guérison qui est constatée. Puisque de cette façon-là, ils enlèvent le pouvoir à l'agresseur. Mais là, je parle pas d'en parler aux policiers. Là. Je parle uniquement d'en parler avec quelqu'un de confiance.
Oui.
Puis là, ça va dépendre du cheminement de la vie de la personne. Mais ici, au CALAC, on prend en compte la personne qu'on a devant nous. On l'aide, on développe des outils spécialisés pour chaque personne. Donc, tu sais, le reste de la guérison, l'autre 50 % je peux pas dire exactement c'est quoi les étapes parce que ça dépend toujours de la personne. Chaque être humain est différent, donc chaque processus est différent. Mais 50 % de la guérison part de la personne qui va en parler à quelqu'un de confiance ou qui vient dans nos services. C'est reprendre du pouvoir sur sa vie d'en parler. Tout reste à l'intérieur de la victime. L'agresseur a encore une emprise sur la victime quand on n'en parle pas. Mm-hmm. C'est une emprise vraiment très psychologique. Même s'il n'est pas proche d'elle, ça reste quand même que l'agresseur a une emprise sur la personne. Il faut remettre la faute à l'agresseur. Parce que la faute, c'est à lui, non à la victime. Peu importe la façon dont ça s'est passé, non, c'est pas de votre faute, même si vous avez consommé avant l'agression. Non, votre habillement n'était pas en cause. Puis non, vous n'avez pas provoqué vos agressions sexuelles. La faute est à l'agresseur et non à la victime. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler vraiment très, très fort pour redonner du pouvoir. Et c'est comme ça que les victimes vont se libérer. Quand ils finissent par nous dire « Oh mon Dieu, effectivement, t'as raison, c'est sa faute à lui. » Rendu là, nos suivis s'étirent un peu plus. Les personnes sont de plus en plus fonctionnelles, plus autonomes. Au moment où est-ce qu'ils ont vraiment mis la faute sur l'agresseur, leur redonner leur paquet à eux, là.
Comment les victimes apprennent à vivre avec leur histoire et qu'est-ce que ça prend pour passer au travers cette épreuve-là?
Ils vont apprendre à vivre avec le traumatisme au fur et à mesure que le temps va avancer. Malheureusement, c'est le temps qui va faire ça. Ça va devenir un mauvais souvenir. Le temps et le travail sur soi, c'est une très bonne façon d'apprendre à vivre avec ce traumatisme-là. Puis un bon réseau qui les comprend. Aide les victimes aussi. Tu sais, pas seulement présent, mais tu sais, quelqu'un qui va comprendre là, le fait qu'ils ont certains silences, qu'ils se mettent à pleurer, on ne sait pas pourquoi, qu'ils font des crises de panique, puis surtout que la personne ne jugera pas. Ça, c'est très, très important. Puis nous, ici, on aide aussi les proches des victimes. Donc, tu sais, des fois, on a des parents ou des amis qui comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ont été victimes autour d'eux et qui veulent avoir des trucs pour les aider, puis que de se faire expliquer la problématique, des fois, ça aide de savoir pourquoi la personne agit de cette façon-là. Donc, ils apprennent à vivre avec le temps avec. Ils vont être marqués à vie parce que ça reste un traumatisme quand même très violent, l'agression sexuelle. Mm-hmm. Mais on peut apprendre à vivre avec ça. Puis tu sais, je dis souvent, j'aimerais bien ça avoir une pilule miracle pour les aider, mais je peux pas. Je peux malheureusement pas. Je peux seulement les aider à revivre puis à renaître de cette expérience-là.
Mm-hmm. Vous, au CALAC, vous offrez justement des services de soutien aux victimes d'abus ou d'agressions et à leurs proches, comme vous le disiez tout à l'heure. Quel est le meilleur conseil de protection émotionnelle que vous donnez à ces gens-là?
C'est vraiment en parler, mais c'est de s'entourer de gens sains, des gens qui vont comprendre la problématique et qui jugeront pas justement la façon dont elles vont réagir devant, tu sais, j'ai des victimes qui avaient de la difficulté à aller à l'épicerie. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient jugés, ils se sentaient regardés. Bien, c'est de pas les juger, ces personnes-là, c'est de les accompagner, c'est de les aider à passer au travers cette conséquence-là. Parce que nous, ici, on n'est pas obligé d'entendre les histoires d'horreur, mais on va travailler avec les conséquences que ça a créées, par exemple. Et ça, c'en est une. Donc, même les gens autour des victimes peuvent les aider à traverser ça. Même les accompagnés au CANAC, s'ils ont entendu, mettons, à la radio, l'entrevue que je donne en ce moment, puis ils disent, ben, je connais le CALAX, on va y aller ensemble. Les accompagner, c'est vraiment génial, c'est très, très gagnant.
Mm-hmm.
Gaspésie, dans nos derniers chiffres qui sont sortis, on a eu 60% d'augmentation de dénonciations et d'interventions avec les gens autour de la Gaspésie. C'est vraiment une augmentation record, là. Depuis MeToo, on a vraiment vu une augmentation et on pensait qu'après un an, ça allait redescendre. Ben non, ça a continué à monter. Et notre chiffre record, c'est vraiment en Haute-Gaspésie. Là, en Haute-Gaspésie, on parle de 174% d'augmentation. Donc, c'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup au niveau des agressions sexuelles. Et puis, étant donné qu'on offre le service aux hommes aussi,
mm-hmm.
ça reste que cette année, on a quand même 25% de notre clientèle qui est masculine. Donc, l'agression sexuelle, c'est pas uniquement féminin, c'est aussi masculin. Il y en a, nos chiffres nous le révèlent assez bien, là.
Bon, ben tant mieux si, dans le fond, les gens, suite au mouvement MeToo, se mettent à en parler davantage. Puis, c'est vraiment par la prévention et l'éducation aussi qu'on peut prévenir des cas comme ça, là, parce qu'on souhaite ça à personne, effectivement. Là.
Effectivement. On est très présents dans les écoles aussi. On va donner beaucoup de prévention en lien avec le plan d'action santé sexuelle des écoles. On fait partie un peu du plan d'action. Nos préventions sont montées en fonction de ça, de leur objectif. Donc, à toutes les années, on va faire de secondaire 1 à 5.
Merci beaucoup, Annick.
Ça me fait plaisir.